Pas de croix, pas de couronne, par William Penn chapitre XI. J'en suis venu à la seconde partie de ce discours, qui est l'avidité ou la cupidité, une maladie épidémique et violente dans le monde, accompagnée de tous les maux qui peuvent rendre les hommes misérables en eux-mêmes et en société, si proches parents du mal précédent, l'orgueil, qu'elles sont rarement séparées. La générosité étant presque aussi odieuse aux orgueilleux qu'aux cupides, je la définirai ainsi. La cupidité est l'amour de l'argent ou des richesses, F5:3:5, lequel, comme l'apôtre l'a dit, est la racine de tous les maux, 1 Tim 6:9-10. Elle se ramifie en trois parties. Premièrement, désirer des choses illicites. Deuxièmement, désirer illicitement des choses licites. Et enfin, thésauriser ou retenir sans profit leurs bénéfices, en le refusant au soulagement des particuliers ou au public. Je donnerai, d'abord, le sens de l'Écriture et les exemples qu'elle fournit contre cette impiété. Et ensuite, mes propres raisons, avec quelques autorités d'auteurs dignes de foi. Par quoi il apparaîtra que déraciner l'amour des richesses du cœur des gens est autant l'affaire de la croix du Christ que l'extirpation de n'importe quel péché dans lequel l'homme est tombé. 2. La première est le désir ou la convoitise des choses illicites, ce qui est expressément interdit par Dieu lui-même, dans la loi qu'il donna à Moïse sur le mont Sinaï, comme règle pour son peuple, les Juifs, afin qu'ils s'y conforment. Tu ne convoiteras pas, dit Dieu, la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui appartienne à ton prochain. Exode 20, 17. Dieu confirma cela par des tonnerres et des éclairs, et d'autres solennités sensibles, pour inspirer au peuple une plus grande crainte en le recevant et en l'observant, et pour rendre la transgression de ses préceptes moraux plus terrible à leurs yeux. Michée se plaint en son temps, ils convoitent des champs et les ravissent par violence, Michée 2:2, mais leur fin fut la misère. C'est pourquoi il a été dit jadis, malheur à ceux qui convoitent une convoitise mauvaise, cela est à notre propos. Nous en avons dans l'Écriture de nombreux exemples remarquables, j'en rapporterai brièvement 2:3. David, quoique par ailleurs homme de bien, est surpris par manque de vigilance. La beauté de la femme d'Uri fut trop forte pour lui, désarmé et hors de sa veille spirituelle. Rien ne pouvait détourner son désir. Uri doit être placé dans un service dangereux, où il était probable qu'il fût tué. C'était hâter la satisfaction illicite de ses désirs par une voie qui semblait ne pas aller jusqu'au meurtre direct. Le stratagème réussit, Uri est tué et sa femme devient bientôt celle de David. Cet événement montra la convoitise de David, mais cela lui réussit-il? Non, son plaisir se changea bientôt en angoisse et en amertume d'esprit. Son âme fut accablée de tristesse. Les flots passèrent sur sa tête, psaume 51, 77, 42, 7, astérisque, il était consumé au-dedans de lui, il était enlisé dans la boue et l'argile, il criait, il pleurait. Oui, ses yeux étaient comme une source de larmes, psaume 69, 2, 14, la culpabilité pesait sur lui, et il devait être purifié, ses péchés devaient être lavés, blanchis comme la neige, car ils étaient rouges comme le cramoisi, sinon il était perdu à jamais, son repentir l'emporta. Voyez quelle œuvre produit cette partie de la convoitise, quel mal, quelle tristesse. Oh, si les gens de cette convoitise laissaient le sentiment de la douleur de David pénétrer profondément leur âme, afin qu'ils parviennent au salut de David, « Restaure-moi, disait cet homme de bien. Il semble qu'il ait connu autrefois un meilleur état. Oui, et cela peut apprendre au meilleur de craindre et de trembler aussi, de peur de pécher et de tomber. Car David fut pris au dépourvu, il n'était plus sur ses gardes et s'était éloigné de la croix, la loi n'était pas sa lampe et sa lumière à cet instant. Il s'était égaré loin de sa sécurité, de sa tour forte, et fut ainsi surpris. C'est alors et là que l'ennemi le rencontra, et alors le vainquit. Astérisque, la chute de David dans la convoitise et le meurtre fut bien pire qu'il n'a été décrit. David jouissait de la communion avec le Seigneur, David avait été rétabli à la perfection d'Adam et Ève. Comme Adam, David tomba alors dans la tentation. Il perdit l'amour et la communion du Seigneur, il perdit la lumière et fut envoyé dans la misère des ténèbres. Puis il fut aussi conduit au bord de l'enfer et cruellement affligé par le Seigneur par une douleur et un châtiment surnaturel. Vois les psaumes 17, 23, 25, 31, 35, 38, 43, 44, 56, 64, 66, 71, 86, 88, 118, 120, 139, 141. Également évoqué par Job 16, 9, 14, Jérémie, Ésaïe et les Lamentations. Mais par de grandes souffrances et par la repentance, il fut rétabli. De la parole du Seigneur au-dedans, les changements que l'Esprit opère sont durables. Dans l'Ancien Testament, ce n'était pas une relation permanente, il la perdait souvent. Jésus a rendu possible pour nous une purification pour toujours et une perfection pour toujours, qui ne pouvait plus retomber, comme David, par une union avec Christ qui n'est jamais tombée. 4. Le second exemple de la peine encourue pour une convoitise illicite est celui de la vigne de Naboth, 1 Roi 21. Elle fut convoitée par Achab et Jézabel, ce qui les conduisit à un désir si illégitime qu'ils trouvèrent le moyen de l'obtenir. Naboth devait mourir parce qu'il ne voulait pas la vendre. Ils accusèrent donc l'homme innocent de blasphème et trouvèrent de faux témoins, fils de Bélial, pour déposer contre lui. Ainsi, au nom de Dieu, et sous l'apparence d'un zèle pur pour sa gloire, Nabos devait mourir, et en conséquence il fut lapidé à mort. La nouvelle parvenant à Jézabel, elle dit à Achab de se lever et de prendre possession de la vigne, car Nabos était mort. Mais Dieu poursuivit, l'un et l'autre de sa vengeance terrible. Dans le lieu où les chiens ont léché le sang de Nabos, dit Élie, au nom de l'Éternel, les chiens lécheront ton sang, oui, le tien, et je ferai venir le mal sur toi, et j'ôterai ta postérité. Et au sujet de Jézabel, sa femme est complice dans sa convoitise et son meurtre, il ajoute, les chiens mangeront sa chair près des murailles de Jézuil. Voilà l'infamie et le châtiment dû à cette partie de la convoitise, que cela détourne ceux qui désirent des choses illicites les droits d'autrui, car Dieu, qui est juste, les paiera certainement au centuple à la fin. Mais peut-être sont-ils peu nombreux, soit qu'ils ne le fassent pas, soit qu'ils n'osent pas le montrer, parce que la loi les mordrait s'ils le faisaient. Mais la partie suivante traitée ci-dessous a assez de gens, qui s'écrieront pourtant contre le mal de cet aspect de la convoitise, et par leur apparente horreur, voudraient s'excuser de toute culpabilité pour le reste. Examinons cela maintenant. 5. La partie suivante est la plus commune de la convoitie est le désir illicite de choses licites, surtout des richesses. L'argent est licite, mais l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ainsi, les richesses sont licites, mais ceux qui les poursuivent tombent dans diverses tentations, pièges et convoitises. Ils les appellent des richesses incertaines, pour montrer la folie et le danger de ceux qui y attachent leur cœur. La convoitie est odieuse à Dieu, il a annoncé de grands jugements contre ceux qui s'en rendent coupables. Dieu en accusa autrefois Israël comme l'une des raisons de ses jugements. À cause de l'iniquité de sa convoitise, dit Dieu, je me suis irrité et je l'ai frappé. Ésa 57-17. Ailleurs, chacun est livré à la cupidité, et du prophète au prêtre, chacun use de fraude, Jer 6-13, c'est pourquoi je donnerai leurs femmes à d'autres, et leurs champs à ceux qui les posséderont, Jer 8-10. En un autre lieu, Dieu se plaint ainsi, mais tes yeux et ton cœur ne sont tournés que vers ta cupidité, Jer 22-17. Par Ézéchiel, Dieu renouvelle et répète sa plainte contre leur cupidité. Ils viennent à toi comme vient le peuple, et s'assoient devant toi comme mon peuple. Ils entendent tes paroles, mais ne les mettent pas en pratique. De leur bouche ils témoignent beaucoup d'amour, mais leur cœur court après leur cupidité. Ésaïe 33-31. C'est pourquoi Dieu, dans le choix des magistrats, en fit une partie de leur qualification. Haïr la cupidité, prévoyant le mal qui s'ensuivrait pour la société ou le gouvernement où des hommes cupides seraient au pouvoir, car l'intérêt personnel les inclinerait, et ils chercheraient leurs propres fins aux dépens du public. David souhaitait que son cœur ne s'inclinât pas à la cupidité, mais au témoignage de son Dieu, psaume 119-36. Et le sage nous dit expressément, « Celui qui est la cupidité prolongera ses jours », Proverbe 28-16, faisant suivre une malédiction à cette passion. Et Luc la reproche aux pharisiens comme une marque de leur méchanceté. Et le Christ, dans cet évangéliste, dit à ses disciples, « Prenez garde et préservez-vous de la cupidité », et il en donne une raison qui porte un excellent enseignement. Car dit-il, la vie d'un homme ne consiste pas dans l'abondance de ses biens, Luc 12-15, mais il va plus loin, il joint la cupidité à l'adultère, au meurtre et au blasphème, Marc 7-21-22. Nul étonnement donc si l'apôtre Paul est si sévère dans sa censure de ce mal, il la place aux Romains avec toute injustice, Romains 29. Aux Éphésiens, il écrit de même, ajoutant, que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, F 5-3, et il ordonne aux Colossiens de faire mourir leurs membres. Il nomme plusieurs péchés comme la fornication, l'impureté et semblables, mais il termine par la cupidité qui, dit-il, est de l'idolâtrie, Col 3:5. Et nous savons qu'il n'y a pas de plus grande offense contre Dieu. Non, ce même apôtre appelle l'amour de l'argent la racine de tous les maux, laquelle, dit-il, tandis que quelques-uns l'ont convoité, se sont égarés loin de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. Car ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans un piège et dans beaucoup de convoitises insensées et pernicieuses. Ô homme de Dieu, dit-il à son bien-aimé ami Timothée, fuis ces choses et poursuis la justice, la foi, la patience et la douceur. 1 Tim 6:9-11-6. Pierre était du même avis, car il fait de la cupidité l'un des grands signes des faux prophètes et docteurs qui devaient s'élever parmi les chrétiens, et par lesquels on pourrait les reconnaître. Lesquels, dit-il, par cupidité avec des paroles feintes trafiqueront de vous, 2 Pierre 2-3. Pour conclure, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, à la fin de sa lettre, leur laisse ceci avec d'autres choses non sans grand zèle et grande gravité, que, dit-il, votre conduite soit sans cupidité, Hébreux 13-5, il ne s'arrête pas à cette généralité mais poursuit, et contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Quoi donc devons-nous conclure que ceux qui ne sont pas contents, mais cherchent à s'enrichir, ont abandonné Dieu ? La conclusion paraît dure, mais elle est naturelle, car il est clair que cela ne se contente pas de ce qu'ils ont, ils veulent davantage. Ils convoitent d'être riches s'ils le peuvent, ils ne vivent pas dans cette dépendance et ce regard envers la providence auquel ils sont exhortés, et la piété avec le contentement n'est pas pour eux un grand gain. 7. En vérité, c'est une honte pour un homme, surtout pour un homme religieux, de ne pas savoir quand il a assez, quand s'arrêter, quand être satisfait. Bien que Dieu lui envoie une saison abondante de grain après l'autre, il est si loin d'en faire la raison de se retirer des poursuites du monde, qu'il en fait un motif pour s'y jeter davantage, comme si plus il a, plus il pouvait poursuivre. Il renouvelle donc son appétit, redouble d'efforts plus que jamais, afin d'avoir sa part dans la lutte tant qu'il y a quelque chose à gagner. Cela mène au trouble, non au retrait, et au gain, non au contentement, qui est pourtant le devoir et le réconfort d'un chrétien. Oh, que cela fût mieux considéré, car n'étant pas aussi visible ni aussi exposé à la loi astérisque que d'autres vices, il y a plus de danger faute de ce frein. Il est manifeste que la plupart des gens ne s'efforcent pas pour leurs besoins, mais pour la fortune. Certains l'aiment fortement et la dépensent largement quand ils l'ont acquise. Bien que cela soit pécheur, c'est pourtant plus louable que d'aimer l'argent pour l'argent. C'est là l'une des passions les plus basses dont l'esprit humain puisse être captivé, une convoitise parfaite, plus grande et plus souillante pour l'âme que n'importe quel péché sexuel. Ce qui, considéré, devrait pousser les gens à un examen sérieux, jusqu'où cette tentation de l'amour de l'argent a-t-elle pénétré en eux, et d'autant plus que les pas qu'elle fait dans l'esprit sont presque insensibles, ce qui rend le danger plus grand. Des milliers s'imaginent ne pas être concernés par cet avertissement, et pourtant sont pleinement coupables de ce mal. Comment pourrait-il en être autrement, quand ceux qui, partis d'un état modeste, ont acquis des milliers, s'efforcent encore d'avancer, oui, de doubler et de tripler ces milliers, et cela avec le même soin et les mêmes artifices par lesquels ils les ont obtenus? Est-ce vivre confortablement ou être riche? Ne voyons-nous pas comme ils se lèvent tôt, comme ils se couchent tard? Comme ils sont remplis de la bourse, de la boutique, de l'entrepôt, de la douane, de lettres de change, d'obligations, de chartes parties, etc. Courant de tous côtés, comme s'il s'agissait de sauver la vie d'un innocent condamné. Une convoitise insatiable, et dans laquelle ils sont ingrats envers Dieu autant que nuisibles aux hommes, lui qui leur donne l'argent pour l'employer, et non pour l'aimer, voilà l'abus. Et si ce souci continuel, ces stratagèmes et cette industrie ne viennent pas de l'amour de l'argent chez ceux qui ont 10 fois plus qu'au départ, et bien plus qu'ils ne dépensent ou n'ont besoin, je ne sais quel témoignage l'homme peut donner de son amour pour quoi que ce soit. Astérisque, quelle loi subsiste encore pour les croyants qui cherchent Dieu? La loi de Dieu qui est dans le cœur de chaque homme et qui n'a jamais été abolie. Pour en savoir davantage sur ce sujet, voir jusqu'à ce que vos paroles et vos actes soient inspirés par Dieu, vous devez obéir à la loi intérieure dans le cœur de chaque homme. 8. Pour conclure, la cupidité est ennemie du gouvernement et des magistrats, car elle tend à la corruption. C'est pourquoi ce que Dieu avait établi était tel qu'il le craignait et haïssait la cupidité. Ensuite, elle nuit à la société, car les vieux marchands maintiennent les jeunes dans la pauvreté. Et la grande raison pour laquelle certains ont trop peu et sont ainsi forcés de trimer comme des esclaves pour nourrir leur famille et garder la tête hors de l'eau, c'est que les riches travaillent et s'efforcent de devenir plus riches, et convoitent davantage, ce qui assèche les petits ruisseaux de profit des plus modestes. Il devrait y avoir une norme, tant pour la valeur que pour le temps du volume d'affaires, et alors le profit du propriétaire devrait être partagé avec ses employés qui le méritent. Cela aiderait à la fois les jeunes à gagner leur vie et donnerait aux plus âgés le temps de penser à quitter ce monde avec sagesse, eux qui y ont été si occupés, afin d'obtenir une part dans l'autre monde, dont ils ont été si négligents. 9. Il y a encore un autre dommage pour le gouvernement. La cupidité conduit les hommes à abuser de l'État et à le frauder, en dissimulant ou en falsifiant les marchandises dont ils trafiquent, par exemple en faisant entrer clandestinement des biens interdits, ou des biens licites mais de manière à éviter le paiement des droits, ou en déclarant comme leur appartenant des biens d'ennemis par cupidité, ou en faisant passer des marchandises mal fabriquées, ou mesurées de façon malhonnête, avec quantité de tromperies de ce genre. 10. Mais la cupidité a aussi causé des querelles destructrices dans les familles, car des successions tombant entre les mains de ceux dont l'avidité les a poussés à tirer pour eux-mêmes un profit plus grand que ne le permettait la justice, ont engendré bien des troubles et une grande oppression. Il arrive trop souvent que de tels exécuteurs testamentaires aient tenu les véritables ayant droit hors de la possession de ce qui leur revenait, en gardant l'argent qu'ils auraient dû leur payer. 11. Mais ce n'est pas tout, car la cupidité trahit l'amitié. Un pot de vin ne peut être mieux placé pour faire le mal ou perdre un homme. Non, la cupidité est trop souvent meurtrière de l'âme et du corps. De l'âme, parce qu'elle tue la vie qu'elle devrait avoir en Dieu, l'argent devient maître de l'esprit, elle éteint tout amour des meilleures choses, du corps, car pour de l'argent elle tuera, par assassinat, poison, faux témoignage, etc. Je conclurai ce sujet de la cupidité par le péché et le destin de deux hommes cupides, Judas et Simon le magicien. La religion de Judas tomba sur un terrain épineux, l'amour de l'argent l'étouffa. L'orgueil et la colère chez les Juifs s'efforcèrent de faire mourir le Christ, mais jusqu'à ce que la cupidité mette la main à l'œuvre pour l'accomplir, ils étaient tous embarrassés. Ils virent que Judas tenait la bourse et aimait probablement l'argent. Ils le mirent à l'épreuve et y parvinrent. Le prix fut fixé et Judas livre son maître, son seigneur, entre les mains de ses plus cruels adversaires. Mais pour lui rendre justice, il rendit l'argent, et pour se venger de lui-même, il fut son propre bourreau. Un acte mauvais, une fin mauvaise. Allons, vous les cupides, que dites-vous maintenant du frère Judas? N'était-il pas un homme mauvais? N'a-t-il pas agi très méchamment? Oui, oui, auriez-vous fait cela? Non, non, nullement. Très bien, mais ainsi disaient ces Juifs méchants à propos de lapider les prophètes, eux qui pourtant crucifièrent le Fils bien-aimé de Dieu, celui qui venait les sauver, et l'auraient fait s'ils l'avaient reçu, et n'avaient pas rejeté le jour de leur visitation. Frottez-vous bien les yeux, car la poussière y est entrée. Et lisez soigneusement dans vos propres consciences, et voyez si, par amour de l'argent, vous n'avez pas trahi en vous-même le juste, et n'êtes pas ainsi frère de Judas dans l'iniquité. Je parle pour Dieu contre une idole, supportez-moi. N'avez-vous pas résisté, oui, étouffé le bon esprit du Christ dans votre poursuite de vos biens chéris? Examinez-vous, éprouvez-vous. Ne vous connaissez-vous pas vous-même? Si Christ n'habite pas, s'il ne règne pas, et s'il n'est pas en vous, aimé par-dessus tout, vous êtes des réprouvés, dans un état de perdition. 2 Cor 13, 5, 12. L'autre homme cupide est Simon le magicien, lui aussi un croyant baptisé. Mais sa foi ne pouvait pas s'enraciner assez profond pour vaincre la cupidité, Actes 8, 9, 24. Il aurait voulu marchander avec Pierre, tant d'argent pour tant de Saint-Esprit, afin de le revendre ensuite et d'en faire un bon commerce, jugeant Pierre selon lui-même, comme s'il n'avait qu'un art plus habile de duper le peuple que lui, qui s'était établi en Samarie comme la grande puissance de Dieu, avant que la puissance de Dieu, en Philippe et en Pierre, ne détrompa le peuple. Mais quelle fut la réponse et le jugement de Pierre? Que ton argent, dit-il, périsse avec toi, tu n'as ni part ni lot dans cette affaire, tu es dans un fiel d'amertume et dans les liens de l'iniquité. Une sentence sinistre. De plus, la cupidité mène au luxe et souvent en sort aussi, car ayant beaucoup, ils dépensent beaucoup et deviennent ainsi pauvres par le luxe. De tels hommes sont cupides pour obtenir davantage, afin de dépenser davantage ce que la tempérance empêcherait. Car si les hommes ne pouvaient pas, ou n'avaient pas la volonté, par de bonnes lois bien exécutées et une meilleure éducation, d'être si prodigues dans leurs tables, maisons, meubles, habits et jeux, il n'y aurait pas une telle tentation de convoiter ardemment ce qu'ils ne pourraient dépenser, car il y a peu d'avaricieux qui aiment l'argent pour l'argent. 13. Ce qui nous mène à la dernière et la plus basse partie de la cupidité, et pourtant la plus sordide, amasser ou garder l'argent sans profit pour les autres comme pour soi-même. C'est l'avare de Salomon, qui se fait riche et n'a rien, Proverbe 13, 7, un grand péché aux yeux de Dieu. Il se plaignait de ceux qui avaient entassé dans leur maison les travaux des pauvres, il appelle cela leur dépouille, et c'est broyer les pauvres, parce qu'il ne les revoit pas. Il exhorte à être de ceux qui prennent soin du pauvre, et ordonne à chacun d'ouvrir libéralement à son frère dans le besoin, Psaume 41, 1, 2, 15, 7, 8, non seulement à celui qui est pauvre spirituellement, mais aussi naturellement, et de ne pas retenir son don aux pauvres. L'apôtre ordonne à Timothée, devant Dieu et devant Jésus-Christ, de ne pas manquer de recommander à ceux qui sont riches en ce monde de ne pas mettre leur confiance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant, qui donne libéralement, et de faire le bien avec elles, afin d'être riches en bonnes œuvres. 1 Tim 6, 17, 18. Les richesses sont sujettes à corrompre, et ce qui les garde les meilleurs et les plus purs, c'est la charité. Celui qui ne s'en sert pas ne les obtient pas pour la fin pour laquelle elles sont données, mais les aime pour elles-mêmes et non pour le service qu'elles rendent. L'avare est pauvre dans sa richesse, il est dans le besoin par peur de dépenser, et il augmente sa peur avec son espérance qui est son gain. Ainsi se torture-t-il lui-même par son plaisir. C'est de tous celui qui ressemble le plus à l'homme qui cacha son talent dans un linge, car les talents de celui-ci sont cachés, hors de vue dans ses sacs, dans des caves, sous des planches, derrière des lambris, ou bien placé en obligation et hypothèque, ne croissant que comme sous terre, car cela n'est bon à personne. 14. L'homme cupide est tous les arts et sciences utiles comme vains, de peur qu'il ne lui coûte quelque chose à apprendre. Ainsi l'ingéniosité n'a pas plus de place dans son esprit que dans sa poche. Il laisse les maisons tomber en ruine pour éviter les frais de réparation, et il met sur le compte de la modération sa frugalité, ses vêtements simples et son mobilier peu coûteux. Au monstre d'homme, qui peut porter la croix se renier par raison de convoiter l'argent, mais ne peut pas porter la croix pour Christ, 15, mais il affecte aussi une certaine religion négativement, car il fulmine toujours contre l'extravagance afin de mieux couvrir son avidité. Si vous vouliez offrir une boîte comme Marie l'a faite aux pieds de Jésus sur la tête d'un homme de bien, pour économiser de l'argent et paraître juste, il vous parle des pauvres comme Judas. Mais si les pauvres viennent, il excuse son manque de charité par l'indignité du pauvre, ou par les causes de sa pauvreté, ou en disant qu'il peut donner son argent à des gens plus méritants. Un tel homme ouvre rarement sa bourse avant le quartier dès le jour où sont payés les loyers et les intérêts de peur de la perdre. 16. Mais il est plus misérable que le plus pauvre, car il ne jouit pas de son argent, et pourtant il craint de le perdre. Les pauvres ne craignent pas de perdre les choses que l'argent peut acheter. Ainsi il est pauvre pour avoir surestimé sa richesse. Mais il est malheureux, celui qui a de l'argent et pourtant a faim au restaurant. Car ayant fait de son or un dieu, qui sait s'il ne trouve pas contre nature de manger dépenser pour la nourriture ce qu'il adore, 17. Et pour illustrer une dépravation plus grande encore, j'ai moi-même connu certains qui se sont épuisés jusqu'à la tombe pour obtenir de l'argent. Et fidèles à leurs principes, lorsqu'ils étaient malades, ils n'auraient pas donné des honoraires à un médecin pour s'aider à continuer de vivre comme de pauvres esclaves. Et ainsi ils moururent pour économiser de l'argent, une réalité qui les canonise comme martyrs de l'argent. 18. Mais voyons maintenant quels exemples l'Écriture nous donne pour réprouver ces sordides amasseurs et cacheurs d'argent. Un jeune homme d'apparence honorable vint à Christ et lui demanda le chemin de la vie éternelle. Christ lui dit qu'il connaissait les commandements. Il répondit qu'il les avait gardés depuis sa jeunesse. Il semble qu'il n'était pas d'un tempérament sans frein, et de fait cela ne le sont généralement pas pour économiser de l'argent. Et pourtant il lui manquait une chose, dit Christ, « Vends tout, distribue aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi », Matthieu 19, 21. Il semble que Christ l'atteignit à l'endroit sensible, il visa juste et le frappa au cœur, lui qui connaissait son cœur, par cela il éprouva combien il avait observé le commandement d'aimer Dieu par-dessus tout. Il est dit que le jeune homme fut fort triste et s'en alla, et la raison donnée est qu'il était très riche. Les deux courants se rencontrèrent, l'argent et la vie éternelle, des désirs contraires, mais lequel l'emporta, hélas, ses richesses. Mais que dit Christ à ce sujet? Qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il ajoute, « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux, Matthieu 19, 23-24, c'est-à-dire un tel homme riche, à savoir un riche cupide, à qui il est difficile de faire le bien avec ce qu'il a, c'est plus qu'un miracle. » Oh, qui voudrait donc être riche et cupide? C'est sur ces riches que Christ prononça son malheur, disant « Malheur à vous qui êtes riches, car vous avez reçu ici votre consolation », Luc 6, 24. Quoi, rien dans les cieux? Non, à moins que vous ne consentiez à devenir pauvre, que vous puissiez tout abandonner, vivre détaché du monde, le tenir à distance, oui, sous vos pieds, en usant de l'argent comme d'un serviteur et non comme d'un maître. 19. L'autre exemple est lui aussi très sinistre, c'est celui d'Anania et de Saphira. Au commencement des temps apostoliques, il était d'usage que ceux qui recevaient la parole de vie apportent ce qu'ils possédaient et le déposent aux pieds des apôtres. Parmi eux, Jose, surnommé Barnabas, fut exemplaire. Entre autres, Ananias et sa femme Saphira, confessant la vérité, vendirent leurs propriétés, mais par cupidité retinrent pour eux une partie du prix, au lieu de la mettre dans la bourse commune, et ils apportèrent une partie pour le tout et la déposèrent aux pieds des apôtres. Mais Pierre, homme simple et hardi, dans la majesté de l'esprit, dit « Anania, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur pour mentir au Saint-Esprit et retenir une partie du prix du champ? Tant qu'il demeurait, n'était-il pas à toi? Et après l'avoir vendu, n'en avais-tu pas la disposition? Pourquoi as-tu conçu cette chose dans ton cœur? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu, Actes 5, 3-4. Mais que suivit cette cupidité et cette hypocrisie d'Anania? Eh bien, Anania, ayant entendu ces paroles, tomba et rendit l'esprit. » Il en fut de même de sa femme, complice de la tromperie à laquelle leur avarice les avait conduits. Et il est dit qu'une grande crainte s'empara de toute l'Église et de tous ceux qui apprirent ces choses, Actes 5, 5-11, et aussi qu'elle devrait s'emparer de ceux qui les lisent maintenant. Car si ce jugement a été montré et consigné afin que nous nous gardions de semblables maux, que deviendra-t-il de ceux qui, sous la profession du christianisme, une religion qui enseigne aux hommes à vivre détachés du monde et à tout remettre à la volonté et au service du Christ et de son royaume, non seulement retiennent une partie, mais tout, et ne peuvent se séparer de la moindre chose pour l'amour du Christ. J'implore Dieu d'incliner le cœur de mes lecteurs à peser ces choses. Cela ne serait pas arrivé à Anania et à Saphira s'ils avaient agi comme en la présence de Dieu, avec cet amour entier, cette vérité et cette sincérité qui leur convenaient. Oh, que les gens utilisent la lumière que Christ leur a donnée pour chercher et voir jusqu'où ils sont sous le pouvoir de cette iniquité. car s'ils veillaient contre l'amour du monde et étaient moins asservis aux choses visibles, qui sont mondaines, ils commenceraient à attacher leur cœur aux choses d'en haut, qui sont de nature éternelle. Leur vie serait cachée avec Christ en Dieu, hors de portée de toutes les incertitudes du temps, des troubles et des changements de la mortalité. Non, si les gens considéraient seulement combien il est difficile d'acquérir des richesses, combien il est incertain de les garder, l'envie qu'elles suscitent, qu'elles ne peuvent ni rendre un homme sage, ni guérir les maladies, ni ajouter à la vie, encore moins donner la paix dans la mort. Non, ni guère procurer un avantage solide au-delà de la nourriture et du vêtement qu'on peut obtenir sans elles, et que si elles peuvent servir à quelque bon usage, c'est de soulager les autres dans la détresse, n'étant que les intendants des abondantes providences de Dieu. Si, dis-je, ces considérations avaient place dans nos esprits, nous ne nous acharnerions pas ainsi à acquérir, ni nous soucierions de cacher et de garder une chose si pauvre et si impuissante que l'argent. Oh, que la croix du Christ, qui est l'Esprit et la puissance de Dieu dans l'homme, ait plus de place dans l'âme, afin qu'elle nous crucifie de plus en plus au monde, et le monde à nous. Que, comme au jour du paradis, la terre redevienne le marchepied, et le trésor de la terre un serviteur, et non un Dieu pour l'homme. Beaucoup ont écrit contre ce vice, j'en mentionnerai 3:20. William Tyndale, ce digne apôtre de la réforme anglaise, a un discours entier, auquel je renvoie le lecteur, intitulé « La parabole du mammon injuste », le suivant est 21. Pierre Charron, célèbre français, et particulièrement pour le livre qu'il a écrit sur la sagesse, a un chapitre contre la cupidité, dont je cite une partie comme suit. Aimer et rechercher les richesses, c'est la cupidité, non seulement l'amour et l'affection, mais encore tout excès de soins scrupuleux et d'activité au sujet des richesses. Le désir des biens et le plaisir que nous prenons à les posséder ne sont fondés que sur l'opinion. Le désir immodéré de s'enrichir est une gangrène dans notre âme, qui, par une chaleur venimeuse, consume nos affections naturelles, au point de nous remplir de maladies mortelles. Dès qu'elle se loge dans nos cœurs, toute affection honnête et naturelle, que nous devons soit à nos parents, soit à nos amis, soit à nous-mêmes, s'évanouit. Tout le reste, au regard de notre profit, ne semble rien. Oui, à la fin, nous nous oublions et nous nous condamnons, nos corps, nos esprits, pour ces immondices passagères. Et comme dit notre proverbe, nous vendons notre cheval pour nous acheter du foin. La cupidité est la passion vile et basse des sots vulgaires, qui tiennent les richesses pour le bien principal de l'homme, et craignent la pauvreté comme le plus grand mal. Et ne se contentant pas des moyens nécessaires, qui ne sont refusés à personne, ils pèsent le bien dans une balance d'orfèvre, lorsque la nature nous a appris à le mesurer par la nécessité. Car quelle folie plus grande peut-il y avoir que d'adorer ce que la nature elle-même, l'or et l'argent a mis sous nos pieds et caché dans la terre, comme indigne d'être vu, oui, plutôt digne d'être condamné et foulé aux pieds? C'est ce que le péché de l'homme a seulement arraché des entrailles de la terre et mis à la lumière pour se tuer lui-même. Nous creusons la terre et mettons à jour ces choses pour lesquelles nous voudrions nous battre. Nous n'avons pas honte d'estimer au plus haut ce qui se trouve dans les parties les plus basses de la terre. La nature semble même, dès la première naissance de l'or, avoir, en quelque sorte, présagé la misère de ceux qui en sont amoureux, car elle a disposé la chose de telle manière que, dans les pays où il ne croit avec lui ni herbe ni plante, ni aucune autre chose qui vaille quelque chose. Nous donnant ainsi à entendre que, dans les esprits où croit le désir de ce métal, il ne peut demeurer ne serait-ce qu'une étincelle de véritable honneur et de vertu. Car qu'y a-t-il de plus bas que de se rabaisser et de se faire serviteur et esclave de ce qui devrait lui être soumis? Les richesses servent les sages, mais commandent aux sots, car l'homme cupide sert ses richesses, et ce n'est pas elles qui le servent. Et l'on dit qu'il possède des biens comme on a une fièvre, qui tient et tyrannise un homme, non pas lui sur elle. Qu'y a-t-il de plus vil que d'aimer ce qui n'est pas bon, et qui ne peut faire un homme bon? Oui, c'est commun, et en possession des plus méchants du monde, cela pervertit souvent les mœurs, mais ne les corrige jamais, sans quoi tant de sages se sont rendus heureux, et par quoi tant de méchants sont venus à une fin mauvaise. Bref, qu'y a-t-il de plus misérable que de lier le vivant au mort, comme Mezentius le fit, afin que la mort fût languissante et d'autant plus cruelle, d'attacher l'esprit à l'excrément et à l'écume de la terre, de se transpercer soi-même l'âme de 1000 tourments, que cette passion amoureuse des richesses traîne avec elle? Et de s'en mêler dans les liens et les cordes de cette chose maligne, comme l'Écriture les appelle, qu'elle nomme aussi épines et larrons, qui dérobent le cœur de l'homme, piège du diable, idolâtrie et racine de tous les maux. Et en vérité, celui qui verrait le catalogue de ces envies et de ces tourments que les richesses engendrent dans le cœur de l'homme, comme leur foudre et leur éclair propre, les haïrait plus qu'on ne les aime aujourd'hui. La pauvreté manque de beaucoup de choses, mais la cupidité manque de tout. Un homme cupide n'est bon pour personne, et pire pour lui-même. Voilà pour Charron, homme sage et grand. Mon prochain témoignage est d'un auteur qui n'est pas de nature à moins engager certaines sortes de gens par son esprit, puissent-ils estimer autant sa moralité et le jugement de son âge mûr. 22, Abraham Cowley, homme d'esprit et ingénieux, nous donne l'autre témoignage. De l'avarice, il écrit ainsi : Il y a deux sortes d'avarice. L'une n'est qu'une sorte bâtarde, et c'est un appétit avide de gain, non pour lui-même, mais pour le plaisir de le répandre aussitôt par le dépenser dans tous les canaux de l'orgueil et du luxe. L'autre est la vraie, et proprement ainsi nommée, qui est un désir inquiet et insatiable de richesse, non pour quelque fin ou usage ultérieur, mais seulement pour les amasser et les conserver, et les accroître perpétuellement. L'homme cupide de la première sorte ressemble à un autruche vorace qui avale n'importe quel métal, mais c'est avec l'intention de s'en nourrir, et en effet cela opère un changement pour le digérer et l'expulser. Le second ressemble au choucasso, oiseau qui aime voler de l'argent uniquement pour le cacher. Le premier fait beaucoup de mal au genre humain, et un peu de bien à quelques-uns, le second ne fait du bien à personne, non, pas même à lui-même. Le premier ne peut donner aucune excuse à Dieu ou aux anges, ni aux hommes raisonnables pour ses actions. Le second ne peut donner aucune raison ni aucun prétexte, pas même au diable pour ce qu'il fait. C'est un esclave de mammon sans salaire. Le premier change pour être aimé, oui, et même envié par certains. Le second est l'objet universel de haine et de mépris. Aucun vice n'a été si lapidé de bonnes sentences, et surtout par les poètes, qui l'ont poursuivi de satires et de fables, d'allégories et d'allusions, et ont remué, comme on dit, toutes les pierres pour les lui jeter. Parmi lesquels je ne me souviens pas d'une correction plus fine que celle que lui a infligée un vers d'Ovide. Multa luxuria 2.1 omnia avaritia, c'est-à-dire, il manque beaucoup au luxe, tout à l'avarice. À quoi j'ai envie d'ajouter un membre et de le rendre ainsi. La pauvreté manque de quelque chose, le luxe de beaucoup, mais l'avidité manque de tout. Quelqu'un a dit d'un homme vertueux et sage que, n'ayant rien, il a tout. Voici exactement son contraire, ayant toute chose, il n'a pourtant rien. Et oh, quelle condition d'homme peut être pire que celle de celui que l'abondance affame et que les bénédictions maudissent ? Les mendiants ne déplorent qu'un sort commun, le riche et au sens fort, pauvre comme le pauvre. Je m'étonne qu'il ne se soit jamais fait de loi contre lui, dis-je. Je veux dire pour lui. Comme il existe des dispositions publiques pour tous les autres fous, il est très raisonnable que le roi désigne des personnes pour administrer ses biens pendant sa vie, car ses héritiers n'ont communément pas besoin de ce soin, et que ces personnes fassent de leur charge de veiller à ce qu'il ne manque pas d'une pension conforme à sa condition, qu'il ne pourrait jamais obtenir de ses propres doigts cruels. Nous secourons les vagabonds oisifs et les faux mendiants, mais nous ne nous soucions nullement de ces hommes réellement pauvres, qui doivent, je pense, être traités avec respect eu égard à leur qualité. Je pourrais être interminable contre eux, mais je suis presque étouffé par la surabondance de la matière, trop d'abondance m'appauvrit comme elle les appauvrit. Voilà donc contre l'avidité cette mythe de l'âme et ce chancre de l'esprit. Chapitre XIV. Je suis maintenant parvenu à l'autre extrémité, et c'est le luxe, qui est une indulgence excessive de soi-même, dans l'aisance et le plaisir. C'est la dernière grande impiété visée dans ce discours de la Sainte Croix du Christ, dont c'est en vérité un des principaux objets quant à sa vertu et sa puissance mortifiante. Maladie aussi épidémique que meurtrière, elle s'insinue dans toutes les conditions et tous les rangs des hommes, les plus pauvres dépassant souvent leurs moyens pour satisfaire leur appétit, et les riches se vautrant fréquemment dans ce qui plaît aux convoitises de leurs yeux et de leur chair, et à l'orgueil de la vie, sans égard pour la sévère discipline de Jésus qu'ils appellent sauveur comme si le luxe, et non la croix, était la voie ordonnée vers le ciel. Que mangerons-nous, que boirons-nous, et de quoi nous vêtirons-nous, jadis souci des païens voluptueux, c'est maintenant la pratique de, et ce qui est pire, l'étude de prétendus chrétiens. Mais que cela ait honte et se repente, se souvenant que Jésus n'a pas reproché ces choses aux gentils afin d'y abandonner ses disciples. Ceux qui veulent que Christ soit à eux doivent s'assurer d'être à lui, d'avoir les mêmes sentiments, de vivre dans la tempérance et la modération, sachant que le Seigneur est proche. Les habits somptueux, les riches ongles, les lavages délicats, les meubles fastueux, la cuisine coûteuse, et des divertissements tels que bals, mascarades, réunions musicales, pièces de théâtre, romans, ajoutons les programmes télévisés et films d'aujourd'hui, etc., qui font les délices et le divertissement de ce temps, n'appartiennent pas au saint chemin que Jésus et ses vrais disciples et fidèles ont parcouru jusqu'à la gloire. Non, par beaucoup de difficultés et de tribulations, dit l'un des moindres d'entre eux, il nous faut entrer dans le royaume de Dieu, Actes 14, 22 et 3, 8. J'implore instamment le fêtard et le voluptueux, entre les mains de qui ce discours parviendra, de bien considérer les raisons et les exemples ici avancés contre leur manière de vivre, afin que, s'il plaît à Dieu, ils puissent voir combien elle est éloignée du véritable christianisme et combien elle met en danger leur paix éternelle. Que Dieu Tout-Puissant, par sa grâce, amollisse leur cœur pour recevoir l'instruction et répande au loin son tendre amour dans leurs âmes, afin qu'ils soient vaincus jusqu'au repentir et à l'amour de la sainte voie de la croix de Jésus, le bienheureux rédempteur des hommes. car ils ne peuvent penser qu'ils puissent leur être profitables, tandis qu'ils refusent d'abandonner leur péché par amour pour celui qui a donné sa vie par amour pour eux, ni qu'il leur donnera une place au ciel, eux qui ne lui en accordent aucune dans leur cœur sur la terre. Mais examinons le luxe dans toutes ses parties. 2. Le luxe a plusieurs parties. La première, que Jésus, qui renonce à lui-même, interdit, est la gourmandise astérisque « Ne vous inquiétez de rien, disant, que mangerons-nous ? Ou que boirons-nous ? Car ce sont là les choses que recherchent les païens » Matthieu 6, 31-32. Comme s'il disait, les païens, ceux qui vivent sans le vrai Dieu, dont le souci est de plaire à leur appétit plus que de chercher Dieu et son royaume, vous ne devez pas agir ainsi, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6:33. Ce qui vous convient suivra, que toute chose ait son temps et son ordre. Astérisque, l'abondance excessive de nourriture était l'un des péchés de Sodome. Voici quelle fut l'iniquité de ta sœur Sodome, l'orgueil, l'abondance de nourriture, et beaucoup d'oisiveté en était à elle et à ses filles, et elle n'a pas fortifié la main du pauvre et de l'indigent. Ésée 16, 49. Aujourd'hui, on nous dit que l'obésité augmente rapidement en tant que problème de santé. Cela constitue un grave reproche pour le mangeur et buveur voluptueux, qui se laisse absorber par un soin excessif de son palais, que mangera-t-il et que boira-t-il ? Souvent à court d'idées sur ce qu'il prendra ensuite, il a donc un officier pour inventer et un cuisinier pour apprêter, déguiser et noyer l'espèce afin de tromper l'œil, paraître nouveau et étrange, et tout cela pour exciter l'appétit ou susciter l'admiration. Assurément, il y a grande variété, et d'une curiosité et d'un coût élevé, la sauce est peut-être plus chère que la viande. Et il est si bien repu que, sans cela, il peut à peine sentir son estomac vide, ce qui revient à forcer la faim plutôt qu'à la satisfaire. Et comme il mange, ainsi boit-il, rarement par soif mais par plaisir pour flatter son palais. À cette fin, il veut plusieurs sortes, et il faut qu'il les goûte toutes. Une seule, si bonne soit-elle, est terne et lassante, la variété est plus délectable que le meilleur, et c'est pourquoi le monde entier n'est pas trop petit pour remplir sa cave. Mais s'il était tempérant dans ses proportions, on pourrait attribuer sa variété plutôt à la curiosité qu'au luxe. Or, ce que l'homme tempérant emploie comme un cordial, une petite liqueur, lui le boit à grands traits jusqu'à ce que, enflammé par l'excès, il soit propre à devenir un instrument de malice, sinon envers les autres, du moins toujours envers lui-même, qu'à la fin il ne connaît peut-être plus. Tant certains en sont venus à une telle brutalité qu'ils boivent à petites gorgées jusqu'à sortir de la connaissance d'eux-mêmes. C'est la convoitise de la chair, qui n'est pas du père mais du monde, car là-dessus viennent la musique et la danse, et la gaieté et le rire, qui est folie, écle 2:2, afin que le bruit d'un plaisir étouffe l'iniquité d'un autre, de peur que son propre cœur ne lui parle trop clairement. Ainsi vivent les voluptueux, ils oublient Dieu, ils ne se soucient pas de l'affliger. Si les filles et les filles des hommes considéraient leur indulgence et leur iniquité en ces choses, comme ils rendent mal la bonté de Dieu dans l'usage et l'abus de l'abondance qu'il leur accorde. Comme ils sont cruels envers ces créatures, prodigues de leur vie et de leur vertu, ingrats pour tout cela, oubliant le donateur, abusant de ses dons, méprisant le conseil et rejetant l'instruction derrière eux, ils perdent toute tendresse et oublient leurs devoirs, engloutis par la gourmandise, ajoutant un excès à un autre. Dieu a repris ce péché chez les Juifs par le prophète Amos, « Vous qui éloignez le jour mauvais et qui faites approcher le siège de la violence, qui vous couchez sur des lits d'ivoire et vous étendez sur vos couches, qui mangez les agneaux du troupeau et les veaux de l'étable, qui chantez au son de la viole et vous inventez des instruments de musique comme David, qui buvez le vin dans des coupes et vous oignez des ongles les plus précieux, mais vous ne vous affligez pas de la ruine de Joseph. » Amos 6:3-6. Cela, à ce qu'il semble, étaient les vices des Juifs dégénérés, sous tous leurs prétextes de religion, et ne sont-ils pas ceux des chrétiens d'aujourd'hui ? Oui, ils le sont, et ce sont là les grandes parties du luxe visées dans ce discours. Souvenez-vous, l'homme riche, avec tous ses mets somptueux, est allé en enfer, et l'apôtre prononce de lourds malheurs sur ceux dont le Dieu est le ventre, car ils se glorifient dans leur honte, Phil 3:19. Christ réserve ces choses au cours des rois de ce monde, non à son royaume, les jugeant inconvenantes chez ses disciples. Son repas donc, offert à la multitude, qui fut son miracle, fut simple et sans apprêt, suffisant, mais sans curiosité ni art culinaire, et cela leur réussit car ils avaient faim, le moment le meilleur et le plus convenable pour manger. Et l'apôtre, dans ses instructions à son très aimé Timothée, rabaisse les amateurs de la plénitude mondaine, lui conseillant d'estimer la piété et le contentement comme le plus grand gain, ajoutant, « Et ayant la nourriture et le vêtement, contentons-nous-en intime. » 6:6-8. Voyez la vie abstinente et très contente de ces pèlerins, fils du ciel et descendants immortels de la grande puissance de Dieu. Ils étaient souvent dans les jeûnes et les périls, et mangeaient ce qu'on mettait devant eux, et en toutes conditions ils apprenaient à être contents. Ô homme béni, ô esprit béni, que mon âme demeure avec les vôtres à jamais. 3. mais les maladies que le luxe engendre et nourrit en font un ennemi du genre humain. Car outre les tourments qu'il apporte aux âmes, il mine la santé et abrège la vie de l'homme, en ce qu'il ne donne qu'une mauvaise nourriture et laisse ainsi subsister et nourrit des fonctions corporelles corrompues, d'où il s'ensuit que le corps devient lourd et impur, paresseux et malsain, impropre à l'exercice, et plus encore impropre au travail honnête. Les esprits étant ainsi chargés de mauvaise chair, et l'esprit affaibli, l'homme devient inactif, et par là inutile à la société civile, car l'oisiveté suit le luxe, tout comme les maladies. Ce sont là les fardeaux du monde, les dévoreurs de biens, les amis d'eux-mêmes, et par conséquent les oublieux de Dieu. Mais ce qui est triste, et pourtant juste, c'est que la fin de ceux qui oublient Dieu, c'est d'être précipité dans l'enfer, Psaume 9:17, 2:1-9. 4. Mais il est une autre partie du luxe qui occupe une grande place chez l'homme et la femme vain, et c'est l'élégance de l'habillement, l'un des excès les plus insensés, parce que le plus coûteux, le plus vain et le plus inutile, dont on puisse bien se rendre coupable. 5. Il n'en va pas autrement des récréations comme on les appelle, car elles sont presque apparentées. L'homme a été créé comme une créature noble, raisonnable, grave. Son plaisir consistait dans son devoir, et son devoir dans l'obéissance à Dieu, c'est-à-dire l'aimer, le craindre, l'adorer et le servir, et user de la création avec une véritable tempérance et une modération pieuse, sachant bien que le Seigneur, son juge, était proche, inspecteur et rémunérateur de ses œuvres. Bref, son bonheur astérisque était dans sa communion avec Dieu, son erreur fut de quitter cet entretien, et de laisser ses yeux errer au dehors pour regarder des choses passagères. Si les récréations de notre époque étaient aussi agréables et nécessaires qu'on le dit et qu'on les fait paraître, Adam et Ève auraient alors été malheureux, puisqu'ils ne les ont jamais connues. Mais s'ils n'étaient jamais tombés, et si le monde n'avait jamais été souillé par leur folie et leur mauvais exemple, peut-être l'homme n'aurait-il jamais connu la nécessité ou l'usage de bien des choses de ce genre. Le péché les enfantait, comme il a engendré l'habillement élégant. Dès qu'ils eurent péché, Adam et Ève eurent peur de la présence du Seigneur, qui était la joie de leur innocence. Alors leur esprit erra, chercha d'autres plaisirs, et commença à oublier Dieu, comme il s'en plaint ensuite par le prophète Amos. Ils éloignent le jour mauvais, ils mangent la graisse du troupeau, ils boivent le vin dans des coupes. Ils soignent sur des lits d'ivoire, ils chantent au son de la viole, et s'inventent des instruments de musique comme David, sans prendre garde ni se souvenir de l'affliction et de la captivité du pauvre Joseph, Amos 6:3-6. Joseph qu'ils vendirent méchamment, l'innocence fut tout à fait bannie, et eux le peuple juif commencèrent à s'accoutumer à la honte, jusqu'à devenir hontés dans l'imitation du vrai plaisir, qui est la sainteté. Et en vérité, il n'est maintenant pas moins honteux d'approcher l'innocence primitive par une simple modestie, que ce fut une honte pour Adam de l'avoir perdue et d'être contraint de coudre des feuilles de figuier pour se couvrir. C'est pourquoi, en vain les hommes et les femmes se parent de prétextes superficiels de religion et flattent leurs misérables âmes des beaux titres de chrétiens, innocents, bons, vertueux et autres semblables, tandis que de telles vanités et folies règnent. C'est pourquoi à vous tous de la part du Dieu éternel, je suis tenu de déclarer, vous vous moquez de celui qui ne se laisse pas moquer, et vous vous trompez vous-même, Galates 6:7. Une telle intempérance doit être reniée, et vous devez savoir que vous êtes changé, et vous être davantage rapproché de la pureté primitive, avant de pouvoir prétendre à ce que vous usurpez maintenant, car seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu, Romains 8:14, lequel conduit à toute tempérance et douceur, Galates 5:23. Le bonheur et la joie du monde sont fugitifs jusqu'à ce qu'un homme ait crucifié sa nature mauvaise et égoïste, alors, avec la réception du royaume, il y a une joie et une paix ineffables qu'on ne peut même imaginer avant de les avoir éprouvées. La joie est l'un des fruits du Saint-Esprit, une joie permanente, au-delà de la joie passagère de la terre. Richard Claridge, remarquable Quaker des débuts, a écrit avec profondeur « Le vrai bonheur de l'homme consiste à être véritablement religieux, ou saint selon notre mesure, comme Dieu est saint, car la sainteté et le bonheur sont si étroitement liés que l'un ne peut être ni subsister sans l'autre. La sainteté est le bonheur commencé, et le bonheur est la sainteté dans sa perfection. » 6. Mais le monde chrétien, comme on l'appellerait, est justement mis en accusation, parce que la toute première fin de l'institution de l'habillement est grossièrement pervertie. Le plus grand service auquel les vêtements furent d'abord destinés, quand le péché les eut dépouillés de leur innocence native, était, comme on l'a dit, de les couvrir, donc avec simplicité et modestie, ensuite d'écarter le froid, donc avec solidité, enfin de distinguer les sexes, donc de manière différenciée. Ainsi alors la nécessité poussait à se vêtir, mais maintenant c'est l'orgueil et la vaine curiosité. Jadis il y avait quelque utilité, mais maintenant indulgence et plaisir. Alors on y pensait pour se couvrir, maintenant, cela n'en est que la moindre part, leurs yeux avides exigent des superfluités éclatantes, comme s'ils faisaient leurs vêtements pour se parer, pour être vus plutôt que portés, seulement à cause d'autres curiosités qu'il faut y coudre, bien qu'elles ne protègent ni du froid, ni ne distinguent les sexes, mais qu'elles exposent de façon frappante les esprits complaisants, fantasques et repus de ceux qui les portent. C'est alors, les récréations devaient servir à servir Dieu, être juste, suivre leurs occupations, veiller à leurs troupeaux, faire le bien, exercer leur corps d'une manière convenable à la gravité, à la tempérance et à la vertu. Mais maintenant ce mot « récréation » s'étend à presque toute folie. Tant les hommes ont dégénéré depuis Adam dans sa désobéissance, tant ils sont devenus encore plus hardis et raffinés dans toutes les impiétés, oui, leurs esprits par l'habitude sont devenus si insensibles aux inconvénients qui accompagnent de semblables folies, que ce qui n'était autrefois que nécessité est maintenant le délice, le plaisir et la récréation de l'époque. Que c'est ignoble et indigne d'une créature raisonnable. L'homme, doué d'intelligence, capable de contempler l'immortalité, est fait compagnon sinon supérieur des anges, qu'il désire un peu de poussière, quelque caillou honteux, invention de la seule orgueil et du luxe, des babioles si simiesques et fantasques, des divertissements si ternes et terrestres, qu'un hochet, un bébé, un cheval de bois, une toupie, qui ne sont nullement aussi sauts chez un simple enfant, ni indignes de ses pensées que ne le sont de telles inventions du soin et du plaisir des hommes faits. Astérisque, c'est une marque de grande stupidité que de telles vanités exercent l'esprit noble de l'homme, image du grand créateur du ciel et de la terre. Peine dit que si les jouets conviennent aux enfants, les hommes adultes ne devraient pas poursuivre des jouets pour leur plaisir, tels que des bateaux, avions, skis, motos, planches de sœurs, voitures de course, iPods, home cinéma, ordinateurs, etc. 8. De cela beaucoup, parmi les païens même de l'Antiquité, avaient une vue si claire qu'ils détestaient toutes ces vanités, regardant la curiosité dans l'habillement, et cette variété de récréation aujourd'hui en vogue et en estime chez de faux chrétiens, comme destructrice des bonnes mœurs. En ce qu'elle dérobait plus facilement l'esprit des gens à la sobriété pour le porter à la licence, à l'oisiveté, à l'efféminement faiblesse chez les hommes et addiction au plaisir, et ne faisait d'eux que des compagnons pour la bête qui périt. En témoignent ces hommes célèbres, Anaxagore, Socrate, Platon, Aristide, Caton, Sénèque, Épictète, etc., qui placent le véritable honneur et la vraie satisfaction en rien au-dessous de la vertu et de l'immortalité. Non, il reste chez certains morts et indiens de notre temps tant de vestiges d'innocence que, si un chrétien, encore faut-il qu'il soit un drôle de chrétien, laisse échapper un mot immonde, il est d'usage chez eux, à titre de leçon morale, de lui apporter de l'eau pour se purifier la bouche. Combien des vertus semblables et des exemples raisonnables accusent ceux qui professent le christianisme de grossière folie et d'intempérance. Oh, si les hommes et les femmes avaient la crainte de Dieu devant les yeux, et s'ils étaient assez charitables envers eux-mêmes pour se souvenir d'où ils viennent, de ce qu'ils font, et de ce à quoi ils doivent retourner. Alors des choses plus nobles, plus vertueuses, plus raisonnables et plus célestes pourraient être l'objet de leur plaisir et de leur divertissement. Qu'ils se laissent une fois persuadés de croire combien la folie, la vanité et la conversation où ils s'exercent le plus sont réellement incompatibles avec la vraie noblesse d'une âme raisonnable. Et que ce juste principe, qui a enseigné les païens, les enseigne, de peur qu'au jour des comptes, il ne se trouve plus supportable pour les païens que pour de tels chrétiens. Car si leurs notions plus courtes et leurs sentiments plus imparfaits des choses pouvaient néanmoins reconnaître tant de vanité, si leur degré de lumière la condamnait, et s'ils, par obéissance à cette lumière, cessaient de s'en servir, à plus forte raison cela ne cédille pas aux chrétiens neufs. Encore ces choses, qui ont été condamnées ci-dessus, n'ont jamais été la conduite ni la pratique des saints hommes et femmes des anciens temps, que les Écritures recommandent comme de saints exemples dignes d'être imités. Abraham, Isaac et Jacob étaient des hommes simples et des princes, comme le sont les pasteurs, sur leurs familles et leurs troupeaux. Ils ne se souciaient pas des vanités dans lesquelles vit tant le peuple de cette génération, car ils plaisaient à Dieu par la foi. Abraham quitta d'abord la maison de son père, sa parenté et son pays, vrai type ou figure de ce renoncement à soi-même que tous doivent connaître, s'ils veulent avoir Abraham pour père. Ils ne doivent pas penser vivre dans ses plaisirs, modes et coutumes qu'ils sont appelés à quitter, non, mais renoncer à toutes ces choses, ou renoncer à l'espérance de la grande rétribution du salaire, et de ce meilleur pays qui est éternel dans les cieux, Hébreux 26, 16, 2 Cor 5, 1. Les prophètes étaient généralement pauvres, l'un berger, l'autre bouvier, etc. Ils criaient souvent aux Israélites repus et complaisants de se repentir, de craindre et de redouter le Dieu vivant, d'abandonner les péchés et les vanités dans lesquels ils vivaient, mais eux-mêmes ne les imitaient jamais. Jean-Baptiste, le messager du Seigneur, prêchait son ambassade au monde dans un vêtement de poil de chameau, un habit rude et simple, Matthieu 3, 4. On ne saurait non plus imaginer que Jésus-Christ lui-même fût beaucoup mieux vêtu, lui qui, selon la chair, était de pauvre origine et mena une vie d'une grande simplicité, au point qu'il était courant par dérision de dire « N'est-ce pas Jésus le charpentier, le fils de Marie ?» Matthieu 13, 55, Marc 6, 3. Et ce Jésus dit à ses disciples que, quant aux vêtements doux, aux habits fins et aux délicatesses, c'était pour les cours des rois, Luc 7, 25, impliquant que lui et ses disciples ne devaient pas rechercher ces choses, et il semble exprimer par là la grande différence entre les amateurs des modes et coutumes du monde et ceux qu'il en avait choisi. Et il ne vint pas seulement lui-même dans cette pauvreté et ce mépris, afin de flétrir l'orgueil de toute chair, mais il devint ainsi un exemple pour ses disciples quant à la vie de renoncement qu'ils doivent mener s'ils veulent être ses vrais disciples. Il leur laisse encore cela dans une parabole, afin que l'impression en fût plus profonde et qu'ils voient combien une vie pompeuse, complaisante au monde, est incompatible avec le royaume qu'il vint établir et dont il appelle les hommes à prendre possession. Et c'est l'histoire remarquable de Dives, représentée d'abord comme un homme riche, Luc 16-19-31, ensuite comme un homme complaisant dans ses riches vêtements, ses nombreux plats et sa meute de chiens, et enfin comme un homme sans charité, ou qui se souciait davantage de sa titre. Mais quelle fut la sentence de cet homme joyeux, de ce grand riche? Nous lisons que ce fut un tourment éternel, tandis que celle de Lazare fut la joie éternelle avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume de Dieu. En bref, Lazare était un homme bon, l'autre un grand homme, l'un pauvre et tempérant, l'autre riche et voluptueux. Il y en a trop de tels encore vivants, et ce serait bien si sa sentence pouvait les réveiller au repentir. 10. Les 12 apôtres non plus, messagers immédiats du Seigneur Jésus-Christ, n'étaient rien d'autre que des hommes pauvres, l'un pêcheur, l'autre fabricant de tentes, et celui qui avait l'emploi le plus élevé, quoique peut-être pas le meilleur, était percepteur. Matthieu 4, 18, 9, 9, Actes 18, 3. Il est donc fort peu probable qu'aucun d'eux fût adepte des modes du monde. Non, ils en étaient si éloignés que, comme il convenait à des disciples de Christ, 1 Cor 4, 9, 14, ils vécurent des vies pauvres, affligées, renonçant à eux-mêmes, exhortant les églises à marcher comme ils les avaient pour exemple, Phil 3, 17, 1 Pierre 2, 21. Et pour clore cet argument particulier, ils donnèrent ce témoignage touchant des saintes femmes des temps anciens, comme exemple de tempérance pieuse, 1 Pierre 3, 3, 4, premièrement, qu'elles s'abstenaient expressément de l'or, de l'argent, des cheveux tressés, des habits fins ou de choses semblables, et ensuite, que leur ornement était un esprit doux et paisible, et l'homme caché du cœur, qui sont de grand prix devant le Seigneur, affirmant que celles qui vivent dans le plaisir sont mortes tout en vivant intime. 5, 6. Car les soucis et les plaisirs de cette vie étouffent et détruisent la semence du royaume, Luc 8, 14, et empêchent totalement tout progrès dans la vie cachée et divine. C'est pourquoi nous trouvons que les saints hommes et femmes des anciens temps n'étaient pas accoutumés à ces plaisirs et vaines récréations, mais ayant l'esprit attaché aux choses d'en haut, ils cherchaient un autre royaume qui consiste en justice, paix et joie dans le Saint-Esprit, eux qui ayant reçu un bon témoignage et étant entrés dans leur repos éternel, voient dès lors leurs œuvres les suivre et les louer aux portes. Rome 14-17, Hébreux 2-4-9, Rêve 14-13. Chapitre XV. Mais cet excès dans l'habillement et le plaisir n'était pas seulement interdit dans l'Écriture. Il fut aussi le fondement de ce message douloureux du prophète Ésaïe au peuple d'Israël. Le Seigneur dit encore, « Parce que les filles de Sion sont hautaines, et qu'elles marchent le cou tendu et les yeux effrontés, marchant en minaudant et faisant tinter leurs pieds, le Seigneur frappera d'une gale le sommet de la tête des filles de Sion, et le Seigneur découvrira leurs parties secrets. En ce jour-là, le Seigneur ôtera l'éclat de leurs ornements sonores et leurs résines. Voyez, ô habitants vains et insensés d'Angleterre et d'Europe, votre folie et votre sentence, la pratique même, l'accoutrement et la vanité de cet âge étant aussi exposés à la colère de Dieu, qui demeure suspendue sur l'Angleterre et l'Europe, et prête à s'exécuter sur leurs habitants rebelles. Lisez encore la vision du prophète Ézéchiel sur la misérable Tyre. Quel châtiment son orgueil et ses plaisirs attirèrent sur elle, et parmi bien d'autres circonstances, en voici quelques-unes. Voici tes marchands en toutes sortes de choses, en vêtements bleus et ouvrages brodés, et en coffres d'habits précieux, émeraudes, pourpre, fin lin, corail et agate, épices, avec toutes pierres précieuses et de l'or, chevaux, chars, etc. Pour lesquels entendez une partie de sa sentence, tes richesses et tes foires, tes marchandises, et toute ta foule qui est au milieu de toi, tomberont au milieu de la mer au jour de ta ruine, et les habitants des îles seront stupéfaits de toi, et leurs marchands siffleront à ton sujet, tu seras une terreur, et tu ne seras plus. Ésaïe 27. Ainsi Dieu a déclaré son déplaisir contre le luxe de ce monde voluptueux complaisant. Le prophète Sophonie va plus loin encore, car il parle ainsi. Il arrivera, au jour du sacrifice du Seigneur, que je punirai les princes et les enfants du roi, et tous ceux qui sont vêtus d'habits étrangers, sauf 1, 8. De quelles funestes conséquences était-ce alors, pour les plus grands, de se donner la liberté de suivre les vaines coutumes des autres nations, ou de détourner la fin ordinaire des vêtements, pour satisfaire de folles curiosités d'eux. C'est ce dont le Seigneur Jésus-Christ a expressément enjoint à ses disciples de ne pas se soucier, insinuant que ceux qui s'en souciaient ne pouvaient être ses disciples, car, dit-il, ne vous inquiétez de rien, disant, que mangerons-nous, ou que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent, car votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 31-33. Sous ces choses de manger, de boire et de s'habiller, Il comprend toutes les choses extérieures quelles qu'elles soient. Cela est si répandu parmi les chrétiens mondains, ignorant d'un royaume invisible et céleste de Dieu et de sa justice, les mêmes choses qu'il leur commande d'ignorer sont leur plus haute priorité, ils font de la nourriture et du vêtement une inquiétude, alors qu'ils devraient en jouir innocemment. Si donc, en de tels cas, l'esprit de ses disciples ne devait pas être inquiet, à bien plus forte raison ne devait-il pas l'être dans des inventions folles, superstitieuses et oiseuses, destinées à satisfaire les appétits et les esprits charnels des hommes. Il est donc certain que ceux qui vivent ainsi ne sont pas ses disciples, mais des gentils et des païens, et comme il le dit ailleurs, les nations du monde qui ne connaissent pas Dieu, Luc 12, 20, 33. Si donc la marque distinctive entre les disciples de Jésus et ceux du monde est que les uns s'attachent aux choses du ciel et au royaume de Dieu, qui consiste en justice, paix et joie dans le Saint-Esprit, Rome 14, 17, sans se soucier des choses extérieures, même les plus innocentes et nécessaires, et que les autres s'attachent à manger, boire, s'habiller aux affaires de ce monde avec les convoitises, plaisirs, profits et honneurs qui lui appartiennent, je vous en prie pour l'amour de vos âmes, ô habitants d'Angleterre, soyez sérieux, réfléchis. Que d'achats et de ventes, que de transactions et de crêles, que d'écrits et de publicités, que de peines et de travail, que de bruit, de hâte, d'agitation et de confusion, que d'études, de petites ruses et d'avantages indus, que de manger, boire, vanité des habits, récréation des plus ridicules, en un mot, que de levers matinaux, que de couchers tardifs, quel gaspillage d'un temps précieux autour de choses qui périssent. Regardez les rues, les boutiques, les bourses, les théâtres, les parcs, les cafés, etc. Et le monde, ce monde qui se fane, n'est-il pas écrit sur tous les visages? Ne dites pas en vous-même, comment autrement les hommes vivraient-ils et le monde subsisterait-il? C'est l'objection commune, quoique frivole. Il y en a assez pour tous. Que certains se contentent de moins, peu de choses simples et décentes suffisent à une vie chrétienne. C'est la convoitise, l'orgueil et l'avidité qui poussent les hommes à de telles folies. Si le royaume de Dieu exerçait davantage leurs esprits, ces divertissements périssables ne prendraient que bien peu de leur temps et de leurs pensées. 3. Cette doctrine de renoncement à soi-même fut confirmée et renforcée par les apôtres, par leur exemple, comme nous l'avons déjà montré, et par leurs préceptes aussi, comme nous le prouverons encore par ces deux passages des plus remarquables de Paul et de Pierre, où ils nous disent non seulement ce qui doit être fait, mais aussi ce qui doit être renié et évité. De même aussi, je veux que les femmes se parent d'un vêtement décent avec pudeur, modestie et sobriété, non avec des cheveux tressés ou de l'or ou des perles, ou des habits somptueux, il sent. 2, 9, 10. Cela implique absolument que celles qui se parent d'or, d'argent, de cheveux tressés, de perles, de riches vêtements, ne peuvent, ce faisant, être des femmes professant la piété, faisant de ces choses même le contraire de la modestie, et par conséquent les jugeant mauvaises et inconvenantes à des femmes professant la piété. À quoi l'apôtre Pierre joint un autre précepte du même ordre, que votre parure ne soit pas la parure extérieure, celle qui consiste à tresser les cheveux, à porter de l'or et à revêtir des habits, quoi donc, mais que ce soit l'homme caché du cœur, dans ce qui est incorruptible, l'ornement d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu, 1 Pierre 3, 3, 5. Et comme motif, il ajoute, « Car c'est ainsi que, jadis, les saintes femmes aussi, qui espéraient en Dieu, se paraient. » Ce qui montre, non seulement que les saintes femmes se paraient ainsi, et qu'il faut que celles qui veulent être saintes et espérer en Dieu le soient, mais aussi que celles qui usaient de ces ornements interdits étaient les femmes et les gens, en tout temps, qui, malgré tout leur discours, n'étaient pas saints ni n'espéraient en Dieu. Loin d'espérer en Dieu, l'apôtre Paul dit expressément que « celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoiqu'elle vive, intime, 5, 6. » Et le même apôtre ordonnait encore que les chrétiens aient leur conversation dans les cieux, et l'esprit attaché aux choses dans au fil 3, 20, col 3, 1, 4, marchons honnêtement comme en plein jour, non dans les ripailles et l'ivrognerie, non dans l'immoralité sexuelle et la débauche, non dans l'envie et la crêle, Rome 13, 13. Que la fornication, l'impureté ou la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ni la grossièreté, ni les propos insensés, ni les plaisanteries qui ne conviennent pas, mais plutôt l'action. Et n'attristez pas le Saint-Esprit, comme le fait toute conversation qui n'édifie pas, Matt 11, 26, F 4, 29, 30, mais soyez imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, marchez avec circonspection, non comme des insensés mais comme des sages, rachetant le temps, car les jours sont mauvais, F 5, 1, 5, 15, 16. 4. À cette mesure, jugez-vous vous-même, ô habitants de ce pays, vous qui vous croyez lésés si nous ne vous tenons pas pour chrétiens, voyez quelle proportion votre vie et votre esprit gardent avec ces préceptes et exemples très sains et de renoncement à soi-même. Eh bien, mes amis, mon âme vous pleure, j'ai vécu avec vous et parmi vous, votre vie et vos passe-temps ne sont pas étrangers à mon observation, et avec compassion, oui, d'une pitié inexprimable, je déplore votre folie. Oh, que vous seriez sages, oh, que le juste principe en vous soit entendu, oh, que l'éternité ait le temps de plaider un peu avec vous. Pourquoi vos lits, vos miroirs, vos habits, vos tables, vos amours, vos pièces de théâtre, vos parcs, vos festins, vos récréations, pauvres joies périssables, devraient-ils accaparer toutes vos âmes, votre temps, vos soins, votre bourse et votre considération? Recevez l'avertissement, je vous en supplie, au nom du Dieu vivant, par quelqu'un dont certains d'entre vous savent qu'il a eu sa part de ces choses, et qui a donc eu le temps de connaître combien peu de telles vanités conduisent au bonheur véritable et solide. Non, mes amis, Dieu Tout-Puissant le sait, et plus à Dieu que vous me croyiez et me suiviez, elle se termine par la honte et la tristesse, fidèle est ce très saint, qui a arrêté que tout homme et toute femme moissonnera ce qu'il sème. Et les troubles, l'angoisse et les déceptions ne seront-ils pas pour vous une triste et terrible moisson, pour tout votre temps et vos biens dissipés en excès et vaines récréations? Retirez-vous donc, n'éteignez pas le Saint-Esprit en vous, rachetez votre précieux temps mal employé. Recherchez des entretiens qui puissent vous aider contre vos mauvaises inclinations, ainsi vous suivrez les exemples et garderez les préceptes de Jésus-Christ et de tous ses disciples, car nous avons clairement démontré qu'aucune manière de vivre telle qu'elle se pratique parmi vous, dans ce pays, n'a jamais été, ni ne peut être, véritablement chrétienne. 5. Mais la meilleure récréation, c'est de faire le bien. Et toutes les coutumes chrétiennes tendent à s'abstenir des excès et à viser quelques fins bonnes et utiles, ce qui, plus ou moins, peut se trouver dans toute action. 1 Pierre 1, 15, Heb 10, 25, 1 Pierre 4, 9, 11, Matt 25, 36, 37. Les hommes et les femmes devraient s'appliquer avec diligence à leurs vocations respectives, fréquenter les assemblées de personnes religieuses, visiter des voisins sobres pour en être édifiés, et des voisins méchants pour les réformer, veiller à l'éducation de leurs enfants, être exemplaires envers leurs serviteurs, secourir les nécessiteux, voir les malades, visiter les emprisonnés, soulager leurs infirmités et indispositions, travailler à la paix entre voisins. Aussi, étudier avec modération de tels arts louables, profitables et utiles que la navigation, l'arithmétique, la géométrie, l'agriculture, le jardinage, les métiers manuels, la médecine, etc. Et que les femmes filent, cousent, tricotent, tissent, jardinent, mettent en conserve, et autres choses semblables, occupations de maîtresse de maison et travaux honnêtes, pratiqués par les plus grandes et les plus nobles matrones et les jeunes, même parmi les païens, aidant aussi ceux qui, faute de moyens, ne peuvent garder des serviteurs, afin de les soulager dans leurs affaires nécessaires. Souvent, dans des retraites privées loin de tous les objets du monde, ils jouissent du Seigneur, par des méditations particulières et constantes sur la vie divine et l'héritage céleste, et négliger cela pour accomplir d'autres choses sous le nom de récréation, c'est manquer de respect envers ce qui est bon. Il est tout à fait vain d'objecter qu'on ne peut faire ces choses toujours, et pourquoi alors ne pas user de ces divertissements communs? Je demande, quels divertissements? Que veulent-ils faire? Que veulent-ils avoir? Ceux qui sont dans les métiers n'ont pas assez de temps pour faire la moitié de ce qui a été recommandé. Et quant à ceux qui n'ont rien à faire, et en effet ne font rien, ce qui est pire que tout le reste, sauf le péché, qui est le pire de tout, ils plaident pour une variété d'occupations et de divertissements agréables, profitables, oui, prétendument très honorables pour eux. Ceux-là peuvent, avec grand plaisir, rester à une pièce, à un bal, à une mascarade, aux cartes, aux dés, etc. À boire, à faire la fête, à banqueter, et choses semblables, toute une journée, oui, changer la nuit en jour, et renverser l'ordre même de la création, pour flatter leur convoitise à Amos 6, 3-8, et n'était-ce manger et dormir, on douterait fort qu'ils trouvassent jamais le temps de cesser ces passe-temps vains et pécheurs, jusqu'à ce que les appels pressés de la mort les convoquent à paraître dans un autre monde. Pourtant, ils jugent intolérable, et à peine possible que quiconque demeure aussi longtemps dans un exercice profitable ou religieux. 6. Mais comment pensent-ils passer leur vaste éternité? Car comme l'arbre tombe, ainsi il demeure, et Éclos 11, 3. Que nul ne se trompe, ni ne se moque de son âme immortelle par un rêve agréable, mais très faux et destructeur, qu'il sera changé par une puissance contraignante et irrésistible, précisément lorsque son âme quittera son corps. Non, non, mes amis, ce que vous semez, vous le moissonnerez, Galates 6, 4, 9. Si vous semez la vanité, la folie, les délices visibles, les plaisirs fugitifs, vous ne moissonnerez jamais mieux que la corruption, la tristesse et l'affreuse angoisse des déceptions éternelles. Mais hélas, quelle est la raison pour laquelle le cri est si commun? Faut-il toujours s'éprendre de ces choses? Très certainement, c'est celle-ci. Ils ne connaissent pas la joie et la paix de parler et d'agir comme en la présence du Dieu très saint, qui surpasse de beaucoup de telles pensées vaines. Éphésiens 4, 18, 20. Ils sont aveuglés par les gloires et les plaisirs du Dieu de ce monde, 2 Cor 4, 4, dont la religion consiste en tant de paroles marmonnées et dévotement dites dans l'ignorance, telles qu'on pourrait les apprendre à des perroquets. Car s'ils étaient de ceux dont le cœur est attaché aux choses d'en haut, et dont le trésor est au ciel, c'est là que demeurerait leur pensée, et là que serait constamment leur plus grand plaisir. Et ceux qui appellent cela un fardeau, et cherchent à se rafraîchir par des passe-temps tels qu'une pièce, un bal, une mascarade, les cartes, les dés, ou autres semblables, j'ose affirmer qu'ils n'ont non seulement jamais connu l'excellence divine de Dieu et de sa vérité, mais qu'ils se déclarent ainsi les plus impropres à les goûter dans un autre monde. Car comment est-il possible qu'ils puissent être ravis pour l'éternité par cette satisfaction astérisque qui leur est si ennuyeux et si pénible pendant 30 ou 40 ans, qu'il faut, pour fournir à leur esprit une récréation, mettre en œuvre et en vogue les petites babioles et vanités de ce monde périssable. Assurément, ceux qui doivent être jugés pour toute parole oiseuse, Matt 12:36, ne doivent pas user des jeux pour faire passer ce temps qu'il leur est commandé de racheter avec tant de diligence, puisqu'il n'y a pas moins d'ouvrage à faire que d'affermir leur vocation et leur élection, F5, 16, Phil 3, 14, 2 Pierre 1, 10, Col 4, 5. Bien moins encore devraient-ils s'appliquer à inventer des récréations pour leurs esprits vains et dépenser la plus grande partie de leurs jours, de leurs mois et de leurs années à cela, n'accordant pas le quart de ce temps aux grands soucis de leur vie et de leur âme, pour lequel ce temps leur fut donné. Jacques 4:14 « Personne, ayant bu du vin vieux, ne désire aussitôt du vin nouveau, car il dira « Le vin vieux est meilleur. » Luc 5:39. Si un pécheur n'avait pas d'abord ses péchés lentement purgés de son cœur, tout en apprenant à haïr tout mal, quand bien même ce pécheur serait transporté au ciel, il n'y serait pas heureux parce qu'il ne pourrait pas poursuivre toutes ses anciennes addictions. Si vous mouriez en péchant encore, vous seriez absolument misérable au ciel. Tous vos plaisirs et désirs, n'ayant pas été crucifiés pendant que vous étiez sur la terre, ne sont pas disponibles au ciel, et vous seriez misérable sans eux. Vous languiriez après le vin vieux, que vous pensez meilleur que le vin nouveau parce que vous n'avez pas été préparé, crucifié, purifié, l'outre neuve, et libéré des convoitises, de la colère, des désirs sexuels, du ressentiment, de l'envie, de la cupidité, du mensonge, de la jalousie, de la folie, de la débauche, de l'ivrognerie, des plaisirs, etc. Même vos pensées seraient entendues par tous ceux qui vous entourent, vous seriez terrifiés et voudriez fuir vers les ténèbres, ou vous espérez que vos pensées ne seraient pas entendues par tout le monde. Un homme doit crucifier ses convoitises et ses affections sur la croix intérieure du renoncement à soi-même avant de pouvoir jouir de la communion dans les cieux. Et nul ne met du vin nouveau dans de vieilles outres ou pots à vin, autrement, le vin nouveau fera éclater les outres, il se répandra et les outres seront perdues. Luc 5:37. Si le Seigneur mettait soudainement en vous son esprit en mesure, sans que vous ayez été lentement purgé du péché, votre corps ne pourrait le supporter, à votre détriment et à celui de son esprit. 7. Il est bien peu nécessaire de passer du temps dans de sottes distractions, car le temps s'envole déjà de lui-même si rapidement, et, une fois passé, il ne revient jamais. Pièces de théâtre, parcs, bals, festins, romans, musique, sonnets d'amour, et autres choses semblables, constitueront une excuse bien invalide pour toute autre fin que leur condamnation, pour ceux qui s'y laissent prendre et y trouvent du plaisir, lors de la révélation du juste jugement de Dieu. Aujourd'hui, nous devons ajouter aux sottes distractions les programmes de télévision et les films, car désormais nous les avons à disposition 24/24 et 7/7, un divertissement constant, dont le contenu, en général, promeut la vulgarité, l'immoralité sexuelle et la violence. Ces passe-temps modernes ne sont pas seulement sots, ils sont vicieusement destructeurs, faisant la promotion de la pornographie, de l'adultère, de l'homosexualité, de la promiscuité, de la grossièreté, et de tout ce que leurs auteurs peuvent imaginer pour séduire vos esprits. Le téléviseur ou le home cinéma est devenu notre Dieu. Au lieu de nous asseoir et d'attendre Dieu pour entendre sa direction et son conseil, nous restons assis devant la télévision pendant des heures chaque jour. C'est la partie centrale de notre vie. Et puis, il y a notre obsession pour le sport, avant tout le football. Combien de supporters sont tués lors d'émeutes dans les stades de football? Combien de temps, combien d'argent, combien d'adrénaline, combien de cris comme des animaux sauvages, dépensons-nous dans notre obsession du sport? Pour moi, assister à des événements sportifs était toujours trop pénible, mais les regarder à la télévision était facile. Le football professionnel fut l'une des dernières choses qu'on m'a dit d'abandonner. Cela ne me manque pas. La baisse d'adrénaline était perceptible. Mon temps est plutôt consacré à la recherche. Des années plus tard, la parole du Seigneur au-dedans de moi m'a dit pourquoi il m'avait été ordonné d'abandonner le football. La raison pour laquelle je suis opposé au football, c'est qu'il encourage les joueurs à blesser ceux de l'équipe adverse. Le football prend de petits garçons et les transforme en animaux. George Fox a décrit le fait d'être un supporter criard lors d'un événement sportif ainsi, et ceux-ci, dans leur sport, hurlent et crient comme des ânes sauvages. Ils sont comme le bétail ou les bêtes lorsqu'on les met au pâturage, mugissant quand ils sont repus. Nous glorifions ceux qui ont des aptitudes athlétiques avec lesquelles ils sont nés, qui leur ont été données par leur Créateur. Mais nous oublions le Créateur pendant que nous regardons ces créatures se mesurer les unes aux autres dans des jeux enfantins, éprouvant une grande fierté quand notre équipe remporte le concours enfantin. Ô mes amis, celles-ci n'ont jamais été inventées que par cet esprit qui avait d'abord perdu la joie et les délices ravissantes de la sainte présence de Dieu. Ainsi, nous concluons d'abord que, parmi ces nombreuses excellentes occupations, déjà mentionnées comme dignes d'occuper des esprits inclinés à ces vanités, il y en a assez pour les occuper, non seulement pour remplir leurs heures de loisirs, mais le double encore, et cela avec grande joie, distraction et profit, tant pour eux-mêmes que pour les autres, pourvu seulement qu'ils soient une fois sevrés de folies vaines et stériles. Et s'ils voulaient seulement considérer combien grande est la satisfaction, et combien certains sont les rewards qui accompagnent ceci et l'autre vie, et de tels bienfaits universels et exemples vertueux. La seconde conclusion est que ce que j'avance ne peut déplaire et paraître ingrat à personne, si ce n'est à ceux qui ne savent pas ce que c'est que marcher avec Dieu, se préparer une demeure éternelle, exercer leur esprit à des choses célestes et bonnes, suivre les exemples des saints hommes et femmes des âges heureux d'autrefois. Ceux qui ne connaissent pas la doctrine, la vie, la mort et la résurrection de Christ en les expérimentant chacune, mais n'ont l'esprit attaché qu'à la chair et par les désirs de la chair, sont attirés, trompés et misérablement ruinés. Et enfin, ce sont ceux qui méprisent le ciel et les joies invisibles, quoique éternelles, pour quelque futilité périssable qu'ils voient, bien qu'elles soient décrétées passées. Comment ces gens sont-ils baptisés avec Christ, dans sa sainte vie, ses souffrances cruelles, sa mort honteuse, et ressuscités avec lui à des désirs immortels, à des méditations célestes, à une nouvelle vie divine, croissant dans la connaissance des mystères célestes et de toute sainteté, jusqu'à la mesure de la stature de Jésus-Christ, le grand exemple de tous, Rome 6, 3, 8, 1 Cor 12, 13, Gal 3, 27, Col 2, 12, 13, F4, 13. Comment, dis-je, ces gens ressemblent-ils aux qualifications chrétiennes les plus nécessaires, et quelle part y ont-ils? Que leur conscience le leur dise après une recherche sérieuse à la fraîcheur du jour. 8. Mais en second lieu, de tels atours et passe-temps ne montrent pas seulement l'excessive mondanité des inclinations des gens et leur très grande ignorance des joies divines, mais en imitant ces modes et en fréquentant ces lieux et ces divertissements, non seulement beaucoup de bien est omis, mais une certaine porte s'ouvre à beaucoup de mal. D'abord, un temps précieux valant un monde sur un lit de mort est perdu, de l'argent qui pourrait être employé au bien commun est dépensé en vain, on prend plaisir à la simple honte, les convoitises. Rien n'est plus notoire que ces révérences serviles, ces courbettes, ces messieurs et madame, adressés aux personnes selon l'éclat et la richesse de leurs vêtements. Ce qui est détestable à Dieu et si absolument interdit dans les Écritures que le faire, c'est enfreindre toute la loi et par conséquent encourir sa peine. Ensuite, quels grands trous de semblables pratiques font-elles dans les fortunes des hommes? Comment leurs occupations sont négligées, de jeunes femmes trompées, le lit conjugal envahi, des crêles et des animosités familiales engendrées, des séparations de mari et femme, des enfants déshérités, des serviteurs renvoyés. D'un autre côté, des serviteurs réduits en esclavage, des enfants négligés, des épouses méprisées et honteusement maltraitées, par l'intempérance de leur mari, ce qui les pousse soit aux mêmes extravagances, soit, prenant à cœur une si cruelle injustice, elles consument leurs jours dans le chagrin et la misère. Mais de toutes ces misérables inventions, les théâtres aujourd'hui, la TV, les films et les DVD, comme autant de séminaires infernaux, contribuent le plus pernicieusement à ces tristes et misérables fins, où l'on ne représente guère autre chose que des mœurs frivoles et débridées, sinon directement obscènes et impies, dont l'influence sur l'esprit de la plupart est notoirement mauvaise, surtout sur la jeunesse qui les fréquente. Et c'est ainsi que des pièces oisives et débauchées sont encouragées et entretenues, on peut à peine concevoir une abomination plus grande que cette catégorie de passe-temps impies, comme on le montrera bientôt plus particulièrement. Et en vérité, rien que le plaisir excessif que les gens y prennent ne pourrait leur aveugler les yeux au point de ne pas le voir. 9. Mais enfin, la grande aversion de l'esprit des gens à suivre des méditations solides, sérieuses et célestes, à cause de la rumination presque continuelle, et pourtant agréable, dans leur esprit, de ces diverses aventures qui les ont divertis, ce qui, chez les plus jeunes, ne peut manquer d'enflammer et de fortifier leurs états bouillants et sensibles. Et dans le reste des récréations communes des bals, mascarades, festins, cartes, dés, etc., il y a les mêmes occasions de promouvoir les mêmes maux. Et plus encore, combien de crêles, d'animosités, non, même de meurtres, ainsi que la dépense de fortune et de temps précieux, ont été les conséquences immédiates de semblables pratiques. En somme, telles étaient les voies des païens qui ne connaissaient pas Dieu, mais jamais la pratique de ceux qui le craignaient, F4 17 25. Non les plus nobles parmi les païens eux-mêmes, à savoir Anaxagore, Socrate, Platon, Antisthène, Héraclite, Zénon, Aristide, Caton, Tullius, Épictète, Sénèque, etc. ont consigné leur dégoût pour ces choses, comme odieuses et destructrices, non seulement de l'honneur du Dieu immortel, mais de tout bon ordre et gouvernement, comme conduisant au relâchement, à l'oisiveté, à l'ignorance et à l'efféminement faiblesse chez les hommes avec dépendance au plaisir, grand chancre et fléau de tous les états et empires. et l'innocence prétendue de ces choses leur dérobe l'esprit à ce qui est meilleur, pour les amener à les aimer. En effet, elle leur donne l'assurance de plaider en leur faveur, et ils ne penseront en aucune manière autrement. Mais pourquoi? Parce que c'est une liberté qui nourrit la chair et satisfait l'œil, et le palais lubrique de la pauvre mortalité. C'est pourquoi ils pensent qu'il est louable de n'être pas meilleur que la bête, qui mange et boit tout ce que sa nature requiert, bien que le nombre de ceux-là soit très petit, tant les hommes et les femmes sont devenus exorbitants en cet âge présent. Car la plupart croient soit que leurs actions doivent être régies par leur propre volonté, soit, au mieux, que ne pas être entaché des pires méchancetés est un sujet de grande vantardise, et en effet, c'est le cas en un temps où rien n'est trop méchant pour être fait. Mais assurément, c'est le signe d'une impiété universelle dans un pays, lorsque ne pas être coupable des péchés que les païens eux-mêmes ont en horreur, c'est être vertueux, oui, et même chrétien, et que c'est là leur principale prétention à la réputation, symptôme funeste pour un pays. N'est-ce pas être grandement aveuglé que de voir ce que nous appelons infidèles détester comme infâme des pratiques que des gens qui se disent chrétiens ne peuvent ou ne veulent pas voir telles, mais qu'ils dorent de beaux titres d'ornement, de décence, de récréation, et autres semblables? Eh bien, mes amis, s'il n'y avait ni Dieu, ni ciel, ni enfer, ni saint exemple, ni Jésus-Christ dans la croix, la doctrine et la vie auxquelles se conformer, la charité envers les pauvres, l'aide aux nécessiteux, la paix entre voisins, les visites aux malades, le soin de la veuve et de l'orphelin, avec le reste de ces bonnes pratiques mondaines déjà rappelées, serait encore une occupation plus noble et bien plus digne de votre dépense et de vos peines. Et en vérité, on ne saurait concevoir que le chemin de la gloire soit aplani par une si grande variété de plaisirs charnels, car alors la conviction, l'esprit blessé, le cœur brisé, l'esprit régénéré, Pro 18, 14, 51, 17, Math 5, 4, Luc 6, 25, Rome 2, 7, Psaume 48, Rome 7, 22, et bon 13, 16, Rome 1, 25, 30, en un mot l'immortalité se révélerait de pure fiction comme certains les font, et comme d'autres le pensent par conséquent. Non, ces pratiques doivent être à jamais éteintes et expulsées de toute société chrétienne, car j'affirme que, pour celui qui connaît intérieurement Dieu et a le sentiment de sa bienheureuse présence, toutes ces récréations sont la mort, oui, plus dangereusement mauvaise et plus propre à dérober l'esprit à l'exercice céleste que des actes impies plus grossiers. Car les plus grossiers sont si énormes qu'on les voit clairement, si sales qu'on les détecte aisément, ce que l'éducation et la tempérance commune, ainsi que la disposition d'esprit chez beaucoup, leur apprennent à abhorrer. Et si ces actes grossiers sont commis, ils entraînent avec eux une conviction plus forte. Mais ces actes prétendument innocents, ces satisfactions supposées inoffensives, Job 1, 4, sont plus surprenantes, plus destructrices. Car de même qu'elles obtiennent facilement l'entrée par les sens, plus elles prétendent à l'innocence, plus elles affermissent l'esprit des gens dans l'usage ordinaire de leurs mauvaises conséquences, de sorte qu'avec une grande assurance ils peuvent plaider en leur faveur. 10. Mais comme cela revient manifestement non pas à se renier soi-même, 1 Jean 2, 15, 17, mais au contraire à employer les vaines inventions des hommes et des femmes charnelles pour satisfaire le désir des yeux, le désir de la chair et l'orgueil de la vie, tout cela exerçant l'esprit au-dessous du divin et du seul vrai plaisir, ou bien, dites-moi, qu'est-ce qui le fait? Qu'il soit donc connu de ceux qui sont tels que la vie céleste et les joies chrétiennes sont d'une autre nature, comme cela a déjà été exprimé. Oui, les vrais disciples du Seigneur Christ doivent être crucifiés à ces choses, comme à des objets et des occupations qui attirent vers le bas, et leurs affections doivent être élevées vers une conduite plus sublime et spirituelle. User de ce monde, même dans ses jouissances les plus innocentes, comme s'ils n'en usaient pas. Mais s'ils prennent plaisir à quelque chose ici-bas, ce devrait être à de telles bonnes pratiques que celles mentionnées plus haut, par lesquelles un bénéfice peut, à quelque égard, revenir à autrui. Par elles, Dieu est honoré au-dessus de toute chose visible, la nation secourue, le gouvernement amélioré, eux-mêmes rendus exemplaires dans le bien, et ainsi justement rendus dignes d'un bonheur présent, d'un doux souvenir auprès de la postérité ainsi que d'une place à droite, où il y a des joies et des plaisirs pour toujours, Job 36, 7, Psaume 5, 12, Pro 10, 7, 11, au-delà de quoi il ne peut rien y avoir de plus honorable, rien de plus certain au siècle des siècles. Commentaire de l'éditeur du site, certes, nous devons faire tous les efforts pour abandonner les pratiques illicites, mensonges, tricheries, grossièretés, vols, injures, immoralité sexuelle, etc. Mais dans notre culture, nous baignons dans des passe-temps licites, sport, télévision, film, navigation sur le web, DVD, musique, concert, théâtre, course, culturisme, shopping, blogging, jeux vidéo, etc. Alors, par où commencer? Vous ne pouvez pas tout abandonner d'un coup, sinon vous ne seriez qu'une coquille vide. Ce que vous abandonnez doit être conduit par lui, une étape à la fois, tandis qu'il vous donne à chaque étape davantage de fin de lui. Tite 2, 11, 14 dit: la grâce nous enseignera à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, à vivre sobrement, justement, pieusement. les jeux vidéo pour adolescents sont remplis d'images sexuelles, de violences et même de démons, devenant souvent des addictions incontrôlables. Certaines choses doivent être rejetées de toutes vos forces, en particulier celles qui vous conduisent à l'immoralité sexuelle. L'addiction à la pornographie est la maladie de notre époque et partout où elle apparaît, elle doit être éliminée. Magazines, calendriers, livres, télévision, films, navigation sur le web, etc. Si vous êtes accro à la pornographie en ligne, téléchargez un filtre anti-porno et gardez-le installé. Si nécessaire, débarrassez-vous de vos cartes de crédit, tout ce qui peut bloquer la facilité de votre dépravation. Mais pour les « passe-temps non nuisibles », sachez qu'ils devront finalement disparaître, mais attendez que le Seigneur vous conduise à y renoncer, quand il vous donnera la force d'obéir et davantage de faim de lui pour combler le vide créé lorsque vous y renoncerez. Comme le Seigneur me l'a dit, je ne veux pas que les gens abandonnent tout d'un coup, sans que je les conduise et les remplisse au fur et à mesure, sinon ils finiront comme une coquille vide. Chacun doit mettre de côté ce qu'il fait pour l'amour de la justice. Concernant le sport, comme Penn le souligne, l'exercice physique qui vous maintient en bonne santé est important et ne doit pas être classé comme un passe-temps, pourvu que vous ne soyez pas obsédé par la victoire ni par l'orgueil d'apparence qui en résulte. Les salles de sport, souvent une source de tentations sexuelles, ne sont pas nécessaires car les abdominaux, les pompes et les flexions profondes des genoux, faits à la maison sur le sol, sont suffisamment bénéfiques pour la plupart. À suivre, au chapitre 16, le but de ce site web est de montrer comment être libéré du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.